Nous allons donc maintenant passer à... Enfin, on va élargir un petit peu le propos, les horizons, puisque nous allons aborder un certain nombre d'exemples finlandais sur des initiatives participatives. Par contre, est-ce que tu peux venir m'ouvrir le fichier, s'il te plaît ? Alors, Cyril Clavel, il est sous. Alors, son titre officiel, c'est bon, tu peux remettre l'image si tu veux, merci. Alors, son titre officiel, c'est sous-directeur des affaires culturelles en charge de la lecture publique au conseil départemental de Seine-et-Marne. Donc, depuis 2018, en fait, il est directeur de la médiathèque départementale.
C'est ça, exactement, c'est plus simple. Voilà, donc en effet, on m'a demandé de vous parler de quelques exemples donc, sur la participation du public en Finlande. Donc moi, la participation des publics, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques années, tant que j'ai été vraiment en poste sur notamment des chantiers de construction de médiathèques, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper tant que ça. Mais après, quand même, voilà, plusieurs projets qui, quand même, ont été faits de manière plus traditionnelle, je veux dire, un peu en chambre, entre bibliothécaires, avec des statistiques, avec les élus. J'avais très envie de me pencher sur cette question. Et le fait d'être en formation de conservateur à l'INET et d'avoir un peu un break pendant un an et demi, de pouvoir se poser un peu et de creuser ce type de questions, m'a permis, en effet, de me documenter sur la question. Et puis aussi, grâce à l'INET, de passer 15 jours en Finlande pour aller voir précisément comment les Finlandais s'y prenaient. Donc moi, je vais vous parler, je suis passé 15 jours en fait à Helsinki, vous savez, c'est au sud du pays. Helsinki et Vantaa, donc est la ville juste au-dessus de l'agglomération d'Helsinki. Voilà, on peut passer à la suivante, ça c'était pour situer les choses géographiquement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un contexte politique en Finlande qui est vraiment très favorable à ce type de questions, puisque on a un véritable portage par les élus des bibliothèques. Comme vous le savez, on a parlé tout à l'heure de Public Library Lovers. Donc là, on est vraiment dans ce contexte-là en Finlande. Et ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup aussi pour le développement de la participation des publics dans l'agglomération d'Helsinki. Voilà. Alors, les choses se sont vraiment formalisées à Helsinki en 2012, quand la ville a été déclarée capitale mondiale du design. Donc le design en Finlande, c'est bien sûr le design d'objets, comme on le sait, mais c'est aussi le design des politiques publiques, dont on a déjà parlé aujourd'hui. Et là, vraiment, la participation au sein du staff de la ville s'est vraiment densifiée, avec le positionnement d'une cinquantaine de référents participation donc dans les grandes directions, et la formation de ce qu'ils appellent 200 unités de travail, qui sont en fait de 200 services formés aux techniques de co-design, de design de services, voilà, dont 10 agents au sein des bibliothèques d'Helsinki, donc dans les années 2015-2016. Alors, la participation en Finlande, elle se fait vraiment à tous les niveaux d'intervention. Elle peut aussi bien concerner un projet d'établissement, aussi bien dans son projet vraiment de service que aussi pour l'architecture. Ça peut concerner un service spécifique de la bibliothèque et plus pragmatiquement, ça peut simplement concerner la réhabilitation d'un espace de la bibliothèque. Les termes qu'emploient le plus les Finlandais, c'est donc participation des publics, participatory, et co-design. Ce sont vraiment les deux termes qui reviennent le plus souvent, plus que finalement la terminologie qu'on peut utiliser ici de design de service ou de co-construction, par exemple. Alors évidemment, l'exemple le plus emblématique et le plus connu, c'est la médiathèque d'Helsinki, sa centrale, qui a ouverte l'année dernière, que vous connaissez forcément. Mais ce que l'on sait peut-être moins, donc là on a beaucoup parlé de l'ouverture de Woody, mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'elle a vraiment été conçue à travers une démarche participative qui a duré en fait plusieurs années, puisque ça remonte quand même maintenant à 5-6 ans en arrière sur la participation pour créer cet établissement. On peut peut-être voilà, passer. Alors ça a démarré par une campagne en fait qui était dites-nous la bibliothèque de vos rêves. Donc là, on a des affiches parmi la dernière campagne où on, des personnalités finlandaises connues, donc Dom Karikoski, qui est un cinéaste, et Esa Saarinen, qui est une philosophe, par exemple. Il y a un affichage en ville. Dites-nous la bibliothèque de vos rêves. La philosophe, par exemple, dit la bibliothèque, en fait, c'est vraiment le cœur de l'éducation. Hein, c'est ce qui est indiqué ici, là, en finnois. Ça, c'est affiché en ville. Ça fait donc, c'est affiché alors à la fois de manière print, c'est sur tous les panneaux plus, comment dire, électroniques. Il y en a beaucoup dans la ville d'Helsinki. Il y a aussi une campagne, bien sûr, web, Facebook. Et l'idée, c'est de faire réagir la population par rapport à cet premier affichage. Donc, campagne Facebook, affichage et rencontre des publics. Donc les bibliothécaires sont sortis des murs, ont rencontré les publics partout où ils le pouvaient, dans la rue, sur des événements, des manifestations qui avaient lieu en ville. Et en posant cette question, donc dites-nous la bibliothèque de vos rêves, ont récolté 2300 réponses au total, qu'ils ont mis donc un certain temps à analyser et à trier, et qui dont ils ont tiré en fait la matière d'ateliers participatifs qu'ils ont fait après. C'est ce recueil d'informations. Alors les ateliers participatifs, donc il y en a eu des dizaines en fait, hein, autour de la bibliothèque d'Helsinki, donc avec un recrutement alors à la fois beaucoup par Facebook mais aussi par affichage, avec un souci d'une représentativité aussi bien pour ce qui est de l'origine sociale, géographique des participants aux ateliers. Ce sont des ateliers qui ont été en grande partie menés par les bibliothécaires avec un peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais pas trop, parce que l'idée est vraiment, donc il y a eu des bibliothécaires de former en interne, mais c'est vraiment que ce soit fait par les équipes qui vraiment se rendent compte sur le terrain des besoins et de ce qui se passe. Ils insistent beaucoup sur la documentation des ateliers, c'est-à-dire les réaliser, mais bien comprendre ce qui se passe, le noter, prendre le maximum de notes, de photos, de vidéos, de tout ce que voilà, de vraiment pour avoir un matériau important à traiter. Et puis ils ont beaucoup fait aussi de participatif en interne pour tester en fait les ateliers, enfin la méthode avant de la mettre en pratique avec les publics. Donc là, on est... Alors, sur Audi, il faut savoir que ça a non seulement... donc, tous ces ateliers participatifs ont non seulement généré le projet d'établissement hein, de Audi, mais aussi l'architecture, en fait, du bâtiment. Alors, peut-être certains d'entre vous l'ont visité, mais ça se voit sur la photo. La dernière partie, qui est blanche et qui est en forme de nuage, donc l'étage supérieur, en fait, ça sort directement des ateliers de participatifs et de l'expression citoyenne qui a dit, en fait, qu'il souhaitait une bibliothèque qui s'élève vers le ciel et qui est qu'on soit à la fois dedans, mais qu'on ait vraiment l'impression d'avoir une ouverture large sur l'environnement et sur le ciel. Donc ça, c'est vraiment une application directe de ce qui est sorti dans les ateliers. La participation, ça peut être aussi autour d'un service spécifique, hein, comme ici, donc ce qu'ils appellent l'Urban Workshop, le Makerspace, qui a été mis en place dans un premier temps dans la Library 10, hein, à côté de la gare d'Helsinki, qui est un projet issu d'un budget participatif, puisqu'il y a aussi ce type de dispositif donc mis en place. Et à partir du moment où les citoyens avaient exprimé l'idée d'avoir donc un Fab Lab, un Makerspace, eh bien, il y a eu des ateliers, donc plusieurs ateliers de réunis, 60 participants qui ont été sollicités sur « bah oui, ok, très bien, mais comment on fait un Makerspace? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il doit y avoir ?» Il y a eu de nouveau de la campagne Facebook, qui, je l'ai mis entre parenthèses là, en fait, a exprimé l'idée d'intégrer des machines à coudre dans ce Makerspace, qui n'était pas du tout une option de départ de la part des équipes de la bibliothèque. Et puis, le Makerspace a été mis donc en place, alors ça remonte, il a été mis en place fin 2011-2012, hein, d'abord dans un bâtiment dans le centre de la ville, puis réintégré à la Library 10, et donc il a fonctionné donc, pendant plusieurs années, avec donc les participants des ateliers d'origine ont continué à participer, ont fait du feedback sur l'utilisation qu'ils faisaient du Makerspace, de façon à préfigurer celui d'après c'est celui qui a au deuxième niveau de la bibliothèque d'Helsinki aujourd'hui, hein, de Audi, qui est beaucoup plus grand, bien sûr, que celui de la Library 10. Et puis, autre participation des usagers, c'est le partage de compétences entre eux et la manière dont ils peuvent s'aider et s'entraider à utiliser ce makerspace. Alors, quelque chose qui, moi, m'a vraiment paru assez emblématique. On est dans un autre quartier d'Helsinki, on est un peu au nord de la ville, on est dans le quartier de Munula. Munula, c'est un quartier de 10 000 habitants dans lequel il n'y avait aucun équipement public. La seule chose qu'il y avait, c'est que c'est une supérette. Point. Et du coup, à un moment, la ville a lancé un projet qui s'appelle Néo-Démocratie, de participation citoyenne et d'expression de la volonté des citoyens. Et donc les citoyens du quartier se sont manifestés auprès de la mairie en disant « Nous, on aimerait travailler sur un équipement public dans notre quartier ». Parmi tous les projets nombreux qui ont été présentés à la ville, il y en a eu 10 de retenue, dont Munula Talo, la maison de Munula, qui, donc, du coup, est vraiment sorti d'un travail citoyen avec plusieurs centaines de participants qui ont, à travers un forum citoyen, co-construit le projet d'établissement qui regroupe sous le même toit et sans aucun mur, sans aucune fermeture entre les équipements, une bibliothèque, un centre pour les 12-18 ans et un centre d'éducation pour les adultes. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que le bâtiment a ouvert, mais le forum citoyen perdure. Il se réunit deux fois par an. Il élit trois représentants élus qui siègent au sein d'un comité directeur avec trois employés, un de chaque structure à l'intérieur de la maison de Munula, et les trois responsables des trois entités. Ils travaillent sur la stratégie de chaque année, de la programmation, de ce qui va se passer dans l'établissement, et ils le présentent devant le forum citoyen. S'il y a trop d'objections, ils revoient leur copie et ils reviennent devant le forum citoyen. Ils sont aussi associés à l'executive board, la gestion courante de l'établissement, et à des groupes thématiques, parfois, par exemple, sur des questions de communication. Il y a aussi chaque année un appel à projet à l'intérieur, donc en plus de la programmation, qui peut par exemple déboucher sur l'aménagement d'un café, comme on le voit sur la photo de droite, qui a été mis en place, un club cinéma ou un jardin partagé. La participation, elle peut être utilisée aussi simplement pour refaire en fait un espace de bibliothèque, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, on est à Kallio, dans un autre quartier d'Helsinki. La bibliothèque de Kallio, c'est une des plus anciennes d'Helsinki. C'est un bâtiment qui date du début du XXe siècle. Il y a un beau bâtiment, un bâtiment historique. Et là, il était donc question de réaménager les espaces de la médiathèque. Il n'y avait pas un budget fabuleux. On était sur un peu moins de 40 000 euros pour refaire des choses, donc c'était pas vraiment une refonte complète. Mais il y avait l'idée d'associer les usagers. Et donc il y a eu plusieurs dispositifs mis en place. Alors d'abord une opération photo qui consiste en fait à prêter des iPads en fait aux usagers de la médiathèque et puis qui vont prendre avec la consigne de prendre des photos de ce qui peut être bien ou pas bien dans la médiathèque et du coup qui a mis en évidence des choses assez un exemple par exemple cette médiathèque a une section jeunesse qui est au dernier étage et en fait il y a une partie des usagers de la bibliothèque qui en fait n'ont jamais osé monter au dernier étage parce que ça ressemblait à un escalier qui menait vers des bureaux. Alors évidemment, ceux qui ont des enfants l'utilisaient, mais une partie du public n'utilisait pas cette partie-là de la médiathèque parce qu'en fait, ils ne la comprenaient pas. Donc ça, c'est quand même assez gros. Il y a eu aussi beaucoup de choses sur la signalétique qui a été dite, notamment à ce moment-là, parce que ça ne fonctionnait pas bien. Et du coup, les photos ont permis de le voir. Il y a eu aussi des journées post-it avec des post-it verts pour ce qui va bien. Donc si on pense que c'est bien, on colle un post-it vert sur ce qui va bien et on colle un post-it rouge sur ce qui ne va pas. Et ça a permis aussi de montrer des choses aux bibliothécaires pour réfléchir aux futurs aménagements. Et enfin, donc il y avait un architecte d'intérieur qui était missionné pour accompagner cette rénovation et il y a eu des ateliers entre les usagers et les architectes. La principale orientation qui a été prise, hormis donc les petits, j'allais dire, enfin les choses un peu plus anecdotiques, c'est l'orientation du mobilier. Le mobilier a été conservé, c'est le même. Il a été un peu revampé, mais il a été vraiment, comment dire, conservé. Par contre, il y avait un problème de lumière dans cette médiathèque que les usagers ont identifié et ont pu donc dire. En fait, il n'y avait rien de traversant, la lumière ne passait pas bien. Donc tout a été réorienté de façon à faire traverser la lumière dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, les bibliothécaires sont beaucoup plus contents, et les usagers aussi, de la présentation qui est faite. Autre exemple, on est dans la commune de Vanta, dans une petite bibliothèque dans un quartier à Kunila, où là on avait une bibliothèque un peu vieillissante, même assez vieillissante, et en mal de public. Des ateliers donc ont été, alors il y avait très peu de budget là pour le coup, c'était vraiment vraiment refaire avec les moyens du bord. Hein, c'est ce qui est très intéressant à Vanta, c'est qu'ils ont fait beaucoup de participation, de design de service avec très très peu de budget. Là, des ateliers ont été faits avec les usagers pour avoir une... En fait, les usagers ont dit on ne comprend pas le classement des collections. On ne comprend pas comment ça marche, on ne trouve pas. Donc, il y avait à la fois un problème de signalétique, un problème de classification. Donc, ils ont travaillé là-dessus, ils ont fait ça ensemble, et donc ça a été reclassé, et on a gardé le même mobilier, et il a simplement été repeint et mis sur roulette et coupé. Il faisait, on avait du mobilier beaucoup plus haut à l'origine, et il a été complètement transformé, mais par les services techniques en fait de la ville. Donc très peu de budget, mais la possibilité de faire avec les habitants des choses de manière très pragmatique. Aujourd'hui à Kunila, a retrouvé du public qui ne venait pas avant. À Point Library, toujours à Vanta, là, on avait une problématique d'un espace qui est unique et qui pose des problèmes de conflit d'usage entre les jeunes, les ados et puis les adultes notamment. Enfin voilà, c'est un espace qui peut être en plus un peu bruyant. Là, il y a eu 3 semaines d'observation des publics sur leur mode de fonctionnement dans la bibliothèque de façon à pouvoir améliorer les choses. Autre exemple, à Tikkurila. Tikkurila, c'est à Vanta, c'est une bibliothèque qui est près d'une assez grande bibliothèque, hein, qui fait 3-4 000 mètres carrés, qui est près d'une gare, et cette gare, elle va directement à Helsinki. Ils ont un public de gens qui utilisent l'espace comme un espace de coworking, mais alors que ce n'était pas du tout prévu pour faire ça. Donc ils ont eu le souhait de pouvoir adapter ces espaces à un public d'entrepreneurs, de freelancers qui viennent là pour travailler. Pour le faire avec eux, ils ont mis en place un partenariat avec l'agence économique locale pour pouvoir recruter le public concerné. Et ils ont travaillé sur la transformation de l'espace sur plan pour arriver donc à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus ergonomique pour les utilisateurs, notamment en termes d'espace plus calme, moins calme, hein, comme ça peut se faire dans les bibliothèques. Autre point qui est, pour moi assez emblématique de la manière dont les collègues finlandais associent leurs usagers, c'est l'association des enfants, de la jeunesse. L'idée, donc, voilà, au même titre que les adultes, les collègues associent donc les enfants, comme on a pu le voir aussi tout à l'heure, un peu sur principalement d'ailleurs sur la requalification d'espace. Hein. On voit sur le site des bibliothèques de Vanta, nous voulions que l'espace répondent autant que possible aux besoins de nos jeunes usagers. Nous avons donc choisi dès le départ de les positionner comme concepteurs principaux de la rénovation. Donc là, pareil, travail avec un architecte d'intérieur. Les enfants, quand ils viennent en famille ou à travers notamment des venues en classe, sont mis en face d'ambiance de couleurs et puis de textures, de matière, enfin à partir de photos, et s'expriment sur la manière dont ils verraient, qu'est-ce qui leur plaise le plus et eux, qu'est-ce qui leur plairait de trouver dans la bibliothèque. Ce qui est ressorti donc le plus, c'est à la fois le monde sous-marin, vous voyez les coraux euros sur la droite. Donc ça, c'est les images qui ont été utilisées. Le jaune, des cristaux. Et donc, il est ressorti donc pas mal de renseignements à travers la consultation des enfants. Et du coup, l'architecte d'intérieur qui est missionné sur la requalification de la bibliothèque de Tikkurila, on est dans le même espace que la précédente, là, et qui est aussi missionné sur du dessin de mobilier, va retenir une thématique plage et mer pour le futur espace de Tikkurila, l'espace jeunesse, et en même temps a fait travailler les enfants sur des mobiliers possibles pour la bibliothèque. Du coup, par exemple, la pieuvre qui est en haut à droite, l'architecte a dessiné un mobilier dans lequel on peut s'asseoir et qui va ressembler effectivement à cette pieuvre. On peut passer. Voilà. Autre forme d'association pour les plus petits, parce que donc l'association elle se fait dès le plus jeune âge. C'est le dessin. Ça peut être les collages, comme vous le voyez en haut à droite, ou aussi à travers des maquettes. Ça peut paraître anecdotique. Quelle serait la bibliothèque de tes rêves ? Alors les enfants, évidemment, on a une version un peu princesse, on a une version un peu plus jungle. Évidemment, c'est pas ce qui va se faire exactement, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'informations, selon les collègues de Vanta, sur les ambiances que souhaitent avoir les enfants. Du coup, en termes de couleurs, parfois en termes de mobilier, en termes de décoration, tout simplement, ça donne des renseignements, y compris chez les plus jeunes. Autre forme, c'est ce qu'ils appellent la technique du story crafting. C'est un peu la mise en mots. Une conteuse commence l'histoire en disant « un lion se rend à la bibliothèque ». Ça se base d'ailleurs sur un livre qui existe. Et de quelle bibliothèque rêve le lion ? Et les enfants continuent l'histoire. Et à travers cette histoire qu'ils racontent, là aussi, des informations passent et permettent d'avoir des informations qui permettent derrière de réfléchir à créer des choses. Autre technique, le petit livret d'activité, donc avec une pieuvre, de nouveau. Donc là, on est sur un petit livret pour les plus jeunes qui dit « Que voudrais-tu faire à la bibliothèque ? Écris-le ou dessine-le. Quelle couleur pour ta chambre ?» Donc la chambre, pour l'enfant, évidemment, c'est un univers familier. Donc quelle couleur ? Il dit des couleurs. Les couleurs les plus citées, évidemment, vont se retrouver dans la future déco. Voilà. Là, on a une version 9-12 ans, donc un peu plus sérieuse, mais qui fonctionne sur le même principe. On rappelle quand même que, attention, on ne peut pas déplacer les murs, donc il faut quand même rester quand même dans une certaine réalité. Dernier principe utilisé, c'est les technologies numériques à travers le logiciel SketchUp, que vous connaissez certainement, qu'utilisent aussi d'ailleurs un peu les architectes. Et là, on demande aux 7-10 ans de dessiner la bibliothèque, de leur rêve, à travers l'outil numérique et la tablette, et qui permet aussi, en termes de couleurs, en termes d'espace, en termes de mobilier, d'avoir... une expression de la volonté des plus jeunes sur leur futur espace. Voilà. Ce que disent les collègues finlandais, c'est que toutes ces techniques, qui sont une technique parmi d'autres, bien évidemment, il ne s'agit pas la participation des publics n'est pas la réponse à tout. Ça vient en plus de, bien sûr, tout ce que l'on peut avoir comme autre échange, matière, en termes d'études, bien évidemment. Mais c'est que ça permet une meilleure connaissance des besoins, aussi bien des besoins de l'ensemble de la population, que c'est un apport de compétences qui ne vient pas remplacer celui des professionnels, mais qui vient compléter celui des professionnels. Ça permet de la transversalité dans les équipes. Ça, ils l'affirment clairement, et la participation, en effet, permet ça. Et puis, pour la bibliothèque, c'est un gain d'image. C'est une relation plus étroite avec ses usagers. Ça permet aussi au public, quel qu'il soit, qui ont participé, de s'approprier beaucoup mieux les services et d'en être les ambassadeurs auprès de leur cercle de proches, et puis de créer une véritable communauté autour de la bibliothèque, et du coup d'avoir, in fine, une bibliothèque mieux intégrée dans son environnement. Voilà. Le petit Moumine, il vous dit merci, voilà, en finnois. Voilà, moi, ces techniques-là m'intéressent à titre professionnel. Alors, ça, c'est une technique parmi d'autres, je le redis, mais je pense en effet que, voilà, enfin, c'est aujourd'hui de la possibilité d'associer les usagers et les non-usagers aussi sur ce que l'on fait est particulièrement importante et permet ces bénéfices-là. Et d'ailleurs, à une autre échelle, hein, pour ce qui concerne la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, qui, nous, on ne voit pas le public en direct, on l'a dit tout à l'heure, notre public, ce sont les bibliothèques, et puis les Seine-et-Marnais, bien sûr, à travers elles, in fine. Mais voilà, on utilise aujourd'hui la participation des publics pour travailler sur le schéma de développement de la lecture publique que l'on est en train de construire. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, en ce moment, il y a un atelier donc avec les bibliothèques d'un territoire, les élus locaux et les acteurs culturels de ce territoire pour travailler, là encore, sur l'expression des besoins par rapport à ce que l'on pourrait faire demain à travers la politique départementale du livre. Voilà, donc c'est quelque chose que j'essaye aussi aujourd'hui de mettre en application avec la médiathèque départementale. Voilà.
Ben, Kitos, c'est ça ?
Kitos.
Merci pour cette présentation assez riche qui peut nous donner pas mal d'idées à transposer dans nos